Chapitre 3. Près d'un an après les faits racontés dans le chapitre précédent, Monsieur Raoul était debout dans la grande salle du château, écoutant avec impatience la lecture que lui faisait Maître Moreau d'un acte sur parchemin. « Enfin, dit-il en interrompant tout à coup, la vente est conclue, n'est-ce pas ?»« Conclue, monseigneur. » Et je cède au duc de Vaujours une des meilleures parts de mon domaine, avec tous les serfs qui en font partie. Et ces hommes d'affaires doivent venir en prendre possession aujourd'hui même. Beaucoup de familles sont déjà réunies dans la cour. Je ne veux pas les voir, dit Raoul. Leurs lamentations me font mal. Pauvres gens, je lui livre une bête féroce. Car le duc n'est pas un homme, mais cette expédition en Terre Sainte a ruiné notre famille. J'ai vendu tout ce que je pouvais vendre avant de toucher à mon domaine, enfin, il a fallu s'y décider. Oh, diable, n'y pensons plus. Tu t'occuperas de tout livrer, Maître Moreau, et surtout, veille à ce que le nouveau propriétaire n'empiète pas sur ce qui me reste, car un domaine écorné ressemble à une étoffe trouée. La déchirure va toujours s'élargissant. Dans ce moment, un domestique ouvrit la porte. Qu'y a-t-il ? Demanda le comte en se détournant. Un marchand voudrait être reçu par monseigneur. Un marchand, que Satan l'étrangle, vient sans doute réclamer le montant de quelque créance. Non, monseigneur m'excusera, celui-ci est un colporteur. Mais que vend-il ? Des manuscrits. Oh, qu'il passe son chemin, je n'ai que faire en ce moment de sa marchandise. Bien, il prétend vouloir parler d'une affaire étrangère à son commerce et qui peut être profitable à monseigneur. Alors, vous verrez que c'est quelque juif qui veut me prêter à 60%. Bon, fais entrer. Le domestique sortit et reparut bientôt avec un jeune homme au teint brun, à la chaussure poudreuse, et portant sur ses épaules la balle de colporteur. À la vue du comte, il se découvrit et demeura debout à quelques pas, attendant que Messire Raoul lui adressât la parole. « Tu as affaire à moi ?» lui demanda brusquement celui-ci. « Oui, monseigneur, répondit le marchand. Le son de cette voix parut frapper Maître Moreau. Il releva la tête. Mais Dieu me sauve, dit-il, mais c'est pas un étranger. Et s'approchant du colporteur, il demeura tout à coup immobile et stupéfait. Mais qu'est-ce donc encore ? Demanda Messire Raoul. Bon, c'est vrai que je suis chrétien, mais je ne me trompe pas, reprit l'intendant. Ce colporteur ! Eh bien, mais c'est un de vos hommes, monseigneur. À moi ? Oui, c'est ce géant qui avait pris la fuite il y a 8 ans. Il se pourrait. C'est la vérité, monseigneur, dit le marchand. Et tu oses te présenter ici, vaut rien ? S'écria Maître Moreau. Sais-tu bien que monseigneur peut te faire fouetter devant la grande porte ? Jean jeta à l'intendant un regard de mépris. Monseigneur a toute puissance sur les serfs de son domaine, reprit-il froidement. Mais non sur ceux qui ont acquis droit de bourgeoisie dans une ville franche. Que parles-tu de droit de bourgeoisie ? Interrompit Raoul. As-tu obtenu de moi ton affranchissement ? Non, monseigneur, mais je le tiens de la coutume. Que veux-tu dire ? Voici une cédule prouvant que j'ai habité 1 an et 1 jour à Besançon. À Besançon ? Répéta Maître Moreau en saisissant le parchemin que tendait Jean. Mais que m'importe, répliqua Raoul. Mais monseigneur n'ignore point sans doute que le séjour dans certaines villes a franchi. Est-ce vrai ? Trop vrai, murmura Maître Moreau. Ainsi alors, ce drôle est libre sans mon consentement. Libre de servage, fit observer l'intendant. Mais n'en demeure pas moins le vassal de monseigneur, tenu à l'hommage et obligé de se servir envers et contre tous, sauf contre le roi. Et c'est à quoi je suis prêt, répondit Jean. Oh, diable, le manant! S'écria Raoul en frappant du pied. Mais qui a permis que le séjour d'une ville pût ainsi prescrire contre nos droits? Vive Dieu, ces communautés de bourgeois finiront par devenir des lieux d'asile pour tous vos hommes. Puis, se tournant vers Jean, Eh, tu viens ici sans doute pour me braver, drôle, ajouta-t-il. Oh, loin de moi cette pensée, monseigneur, dit le jeune homme. Mais que cherches-tu alors? Monseigneur a sur ses domaines un vieillard et une jeune fille, tous deux en servage. Le vieillard est mon père et la jeune fille doit être ma femme. Après, je voudrais acheter leur affranchissement. Eh, moi, je ne veux point te le vendre, s'écria Messire Raoul. Nous verrons si ceux-là aussi l'obtiendront contre ma volonté. Oh, Monseigneur ne voudrait pas se venger ainsi, si durement, s'écria de Jean. Il me refusera point. Je refuse. Mais songez, Monseigneur. Oh, je songe que ton père et ta fiancée sont en mon pouvoir et qu'ils y resteront. Par le ciel, oh, je ferai peut-être une fois ma volonté. Monseigneur a d'ailleurs disposé du vieux Thomas et de Catherine, objecta maître Moreau avec un sourire méchant. Comment cela? Ben, tous deux font partie des familles qui doivent être livrées au seigneur de vos jours. Se peut-il? S'écria Jean. Oui, dit Raoul, je lui ai vendu trois villages avec tous leurs serfs, et tu ne pourras refuser de ses mains ni le vieillard ni la jeune fille, car il a juré de se jamais consentir à un seul affranchissement. Jean tressaillit et devint pâle. Il savait que le seigneur de vos jours était un de ces fous sanguinaires que les souffrances des autres réjouissent. On racontait d'incroyables histoires de sa cruauté. La plus grande partie de ses serfs était morte de misère ou avait pris la fuite. Ses terres avaient cessé d'être cultivées et les visages de son domaine tombaient en ruine. La seule idée de voir son père et Catherine au pouvoir de ce monstre causa au jeune homme une véritable épouvante. Je me soumettrai à telle condition qu'il plaira à mon seigneur d'ordonner, dit-il. Mais au nom du Christ, qui ne livre point ce que j'aime au duc de Vaujours. Monseigneur ne peut se dispenser de faire cette vente, interrompit maître Moreau, qui craignait que Raoul ne se laissât toucher par les prières du jeune homme. Je lui abandonnerai en dédommagement tout ce que je possède, interrompit Jean. En vérité, dit le comte, je serais curieux de savoir ce qu'un drôle de ta sorte cache dans son escarcelle. Je puis disposer de 12 vieux écus, reprit rapidement Jean en tirant tout son argent de la bourse de cuir qu'il portait à son côté. C'est trop peu, dit sagement maître Moreau. Hélas, je ne puis te donner davantage, dit Jean. Mais prenez en outre, s'il le faut, tous mes manuscrits. Voyez, monseigneur, ce sont des bréviaires écrits aux trois encres, des missels ornés de majuscules dorées. Des copies d'Horace et de la logique d'Aristote. Il y en a pour 20 écus au moins. N'est-ce point assez pour l'affranchissement d'un pauvre vieillard et d'une jeune fille? Oh, non, je vous en conjure, ne me refusez pas. Vous ne voudriez pas vous venger de moi, monseigneur, car je suis trop faible et vous trop fort. Vous savez que rien ne peut vivre sur les terres de vos jours. Et envoyez mon père et Catherine. C'est les livrer au supplice. Oh, vous les prendrez en pitié, au nom de tout ce que vous avez aimé. Grâce pour eux, monseigneur, grâce pour moi. Jean était tombé aux pieds du comte. L'intendant s'aperçut que celui-ci était ébranlé. Il le tira vivement à l'écart. Prenez garde, monseigneur, dit-il. Si l'exemple de Jean était imité, vos terres resterait bientôt sans paysan. Sans doute, répondit Raoul, mais la douleur de ce garçon m'a troublé. Mais retirez-vous, et je me charge de le congédier. Mais ces 12 écus et ces livres, oh, je les aurai, monseigneur. En vérité, Jean n'en demeurera pas moins puni, comme il convient pour l'exemple. Alors, bon, ben fait pour le mieux, dit Raoul. Et se tournant vers le jeune colporteur, qui était demeuré tout ce temps à genoux et les mains jointes, ne traite point avec un cerf rebelle, dit-il. Fais tes propositions à maître Moreau. Et il quitta la salle. Jean le regarda sortir, puis se leva lentement. Ses yeux rencontrèrent ceux de l'intendant. Il tressaillit involontairement. « Je suis à votre discrétion, maître, » dit-il, d'un accent abattu. « Que puis-je espérer ? Ces 12 écus et ces livres, sont-ils bien tout ce que tu possèdes ?» demanda celui-ci. « Tout, tout, je le jure sur mon salut. Alors, choisis entre ton père et Catherine. Que voulez-vous dire ? Ben, que tu ne pourras racheter que l'un d'eux. » Jean recula. Dans toutes ses prévisions, il n'avait jamais songé à une pareille épreuve. Il en demeura comme étourdi. L'intendant le regarda avec une joie mal déguisée. « Eh bien, m'as-tu compris ? » demanda-t-il enfin. « Mais c'est impossible, balbutia Jean. Vous ne pouvez pas exiger de moi un tel choix. Bon, alors tous deux partiront pour vos jours, » répondit Moreau avec indifférence. « Non, non, s'écria le jeune homme, non, tous les deux resteront. Je vous en conjure, maître. Si le prix que je paye aujourd'hui ne suffit pas, eh bien, j'engagerai ma parole pour une somme égale. » L'intendant haussa les épaules. « Oh, je n'enregistre point de parole dans mes comptes, » dit-il sèchement. « Allez, choisis, hâte-toi, si tu ne veux qu'il soit trop tard. » Il avait ouvert la fenêtre et Jean aperçut alors la cour pleine d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards, dont un scribe prenait les noms. Tous faisaient entendre de sourds gémissements et levaient au ciel des yeux noyés de larmes. « Ce sont les serfs appartenant aux terres vendues, » dit maître Moreau. « Dans un instant, l'intendant du seigneur de vos jours va les emmener et ton choix serait alors inutile. » Décide-toi donc, si tu ne veux pas perdre sans retour ton père et ta cousine. » La situation de Jean était horrible. Partagé entre deux affections qu'il s'était accoutumé jusqu'alors à regarder comme égales, il n'osait interroger son cœur. Sauver Catherine, c'était sauver pour ainsi dire son avenir et assurer la réalisation de toutes ses espérances. Mais sauver son père, c'était payer la dette de reconnaissance que lui avait légué le passé. Des deux côtés, les dangers étaient égaux. Aussi éperdu haletant, n'osait-il prononcer un arrêt qui lui faisait manquer au devoir ou anéantissait son bonheur. Il était tombé à genoux près de la fenêtre, les mains jointes, demandant à Dieu de l'inspirer, et ne pouvant trouver en lui la force nécessaire pour une décision, lorsque Catherine, qui n'avait point encore aperçu, sortit tout à coup de la foule. En la voyant si belle, si éplorée, Jean ne put résister plus longtemps. Il se leva d'un bond et il se penchait au balcon pour l'appeler. Lorsqu'un vieillard parut à son tour, marchant avec peine et conduit par un enfant, Jean reconnut son père, et la parole s'arrêta sur ses lèvres. Il se rappela tout à coup les soins qu'il avait reçus du vieillard, la tendresse dont il avait été entouré, les conseils utiles qui lui avaient été donnés. Tous les souvenirs de ses jeunes années semblèrent se réveiller pour faire cortège au vieillard. Saisi de respect et d'une reconnaissance pieuse, son cœur se fendit. Il découvrit sa tête et étendit les bras en pleurant. « Mon père, s'écria-t-il, rendez-moi mon père, et que Dieu ait pitié de moi. » Plusieurs mois s'étaient écoulés. Le soleil commençait à baisser à l'horizon et ses dernières lueurs étincelaient joyeusement sur la forêt de Vaujours. Mais l'on n'entendait dans la campagne aucun des bruits qui, ordinairement, l'anime à cette heure. Point de cri d'appel, aucun mugissement de troupeau, nul son de cloche avertissant de prier avant la fin du jour. Les champs étaient déserts, les maisons fermées et muettes. On eût dit que quelque grand désastre pesait sur la contrée entière. Oh, ce désastre, c'était la guerre, et la plus affreuse de toutes. Une guerre où les ennemis parlent la même langue et se sont embrassés la veille. Une guerre entre voisins. La vente faite par le comte Raoul au duc de Vaujours n'avait point tardé à mener des querelles entre les deux seigneurs. Chacun d'eux se plaignait de la mauvaise foi de l'autre. Des explications passaient aux injures et des injures aux armes. Le duc fut le premier à faire sa déclaration de guerre. Il entra sur le territoire de son voisin, détruisit les moissons, brûla les villages et tua le plus qu'il put de ses gens. Le comte Raoul, voulant user de représailles, convoqua ses vassaux et gens qui venaient de perdre son père, se rendit en armes au lieu indiqué. Le comte partagea ses hommes en plusieurs troupes qu'il plaça sous le commandement d'hommes d'armes auxquels il avait donné ses instructions secrètes. Le jeune marchand fit partie de la plus nombreuse de ses troupes, et au moment où nous reprenons notre récit, il se dirigeait avec elle vers Clairet. Les vassaux de messire Raoul marchaient en désordre, jetant de tous côtés des regards inquiets, comme s'ils eussent craint quelque embûche, et se demandant tout bas quel était le but de leur expédition. Jean, qui allait derrière, fut tout à coup accosté par un pêcheur de l'étang de Rillet, qui, en qualité de vassal et fermier du comte, avait aussi été forcé de marcher. « Eh bien, demanda-t-il à voix basse, sais-tu ce qu'on veut faire de nous ?»« Oh, rien de bon, sans doute, répondit Jean. Mais j'ai idée que nous pourrions bien traiter, Clairet, comme le sire de Vaujoux a traité nos villages. « Bon, qui gagnerons-nous, sinon de ruiner des parents et des amis ?» répliqua Jean. « C'est la vérité, garçon, reprit le pêcheur, mais qu'y faire? Le vassal est obligé de prendre les armes quand le seigneur l'ordonne. Oui, dit Jean, et s'il refuse, on le condamne comme lâche et félon, car il n'est point maître de sa haine. Sur un signe, sur un mot, son voisin d'hier doit devenir son ennemi. » Et cela sans qu'il sache pourquoi. Il faut qu'il épouse toutes les colères de son maître, qu'il frappe ou celui-ci ordonne de frapper. Et heureusement que je n'ai personne de ma famille sur le domaine de Vaujours, fit observer le pêcheur. Bon, dis-moi, je l'espère, dit Jean. Ben, j'y pense. Ta cousine Catherine. Oh, elle est au service de la fille du duc et habite le château, même où il n'y a rien à craindre. Tu te trompes, Jean, dit une voix. Le jeune homme se détourna vivement et aperçut maître Moreau. Catherine n'est plus au château, continua l'intendant. Mais comment savez-vous? S'écria Jean. Par les espions qui ont parcouru le domaine de Vaujours. Elle a rejoint sa mère, qui était malade. « Oh, Vivier !» s'écria Jean Gicourt. « Oh, c'est inutile. Comment ?»« La troupe commandée par Pierre y est déjà, avec ordre de tout brûler. »« Se peut-il ? » ?»« Oh, tu arriveras trop tard. Regarde !» Jean leva la tête. Des flammes illuminaient effectivement l'horizon du côté du Vivier. Le jeune homme poussa un cri et s'élança à travers le fourré, se dirigeant en courant vers l'incendie. Bientôt, il distingua les cabanes en feu. Il crut entendre des cris. Faisant un dernier effort, il franchit rapidement l'espace qui lui servait à parcourir et restait à la porte de sa cousine. La flamme commençait à peine à serpenter le long du toit de chaume. Jean, éperdu, se précipita dans la cabane, mais en y entrant, son pied glissa dans le sang et alla heurter un cadavre étendu à terre. C'était celui de Catherine. Un mois après, Jean prenait l'habit de novice chez les franciscains de Tours. Le jour où il descendit au préau pour la première fois, un moine vint à lui et lui demanda s'il le reconnaissait. C'était celui qui, simple novice, 10 ans auparavant, lui avait conseillé d'entrer au couvent. En remarquant la pâleur de ce front triste et ravagé, le jeune religieux secoua la tête. Et là, je le vois, dit-il. Vous avez fait une rude expérience de la vie. Oui, et après de longues épreuves, j'ai reconnu, comme vous le disiez, que c'était ici seulement le port, ajouta Jean. Partout ailleurs, le servage vous laisse quelques bouts de sa chaîne à traîner. Ici seulement est la délivrance. Ici, il retrouve la dignité de l'homme. Ah, naguère, je ne voyais dans vos couvents que des maisons de prière. Mais maintenant, je sais que ce sont aussi des hospices pour les cœurs affligés. Au milieu de cette société barbare encore, basée sur les droits du plus fort, les monastères sont comme ces hautes montagnes où se réfugient les vaincus pour échapper à la servitude. Quand l'égoïsme et la violence abrutissent la foule, ici se conserve le saint héritage de la science, de la justice, de la liberté. Et vous pouvez ajouter, mon frère, que cet héritage se répandra d'ici sur toute la terre, ajouta le moine. Oui, un jour viendra où la fraternité que nous prêchons deviendra la loi générale, où les sociétés des hommes ne seront que de grandes communautés dans lesquelles tous seront égaux, et où les chefs librement élus pourront seuls commander. C'est à cette grande œuvre que nous devons consacrer nos efforts et nos prières. Hélas, dit Jean, s'il en est ainsi, que ne sommes-nous venus sur cette terre quelques siècles plus tard? Pourquoi devons-nous hâter, bâtir avec une sueur de sang l'édifice où d'autres seront à couvert? Mais savez-vous, mon frère, ce qu'ont souffert ceux qui ont préparé le nôtre? Reprit vivement le moine. Croyez-vous qu'ils n'aient point été plus cruellement éprouvés que nous, les premiers chrétiens qui proclamèrent la liberté des hommes et leur égalité devant Dieu? Combien sont morts déchirés par les bêtes ou par les verges du bourreau avant que l'esclave antique soit devenu un serf de nos temps? Ne accusez point la Providence, mais admirez au contraire comme elle a donné à chaque génération sa tâche et à chaque temps son progrès. L'esclave n'avait autrefois de refuge que dans la tombe. Aujourd'hui, le serf trouve parmi nous une retraite. Ah, ne vous plaignez pas, frère, mais songeons seulement à hâter la régénération du monde. Et comment cela? Demanda Jean. En prêchant l'affranchissement de toutes nos forces, répondit le moine, en faisant comprendre aux puissants, prêts de paraître devant Dieu, que ce Dieu ne connaît ni Seigneur ni Manant, en faisant enfin disparaître partout la possession de l'homme par l'homme, dernier héritage d'un paganisme inique et brutal. Oh, que Dieu vous entende, s'écria Jean, et qu'il me fasse la grâce de travailler à une telle œuvre. Vous le pouvez, répliqua le moine, car vous avez revêtu la livrée des travailleurs. Et vous espérez la réussite, mon frère? Je compte sur la parole du Christ, dit le moine. Et le Christ a dit, « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. »